Bonjour, nous allons parler ici de traitement numérique de signal. Il s'agit du cours qui s'adresse au Master M1 en images et réseaux, transparent 2. Ce cours est composé de 11 séances de cours, précédées de 3 séances de TP en MATLAB. Il y a 5 séances de TP de TNS, 9 séances de TD. Le contrôle s'organise sous la forme d'un partiel, d'un examen de TP et d'un examen final. La première partie du cours présente des notions de base de traitement de signal, telles que quantification, échantillonnage, diverses transformées de Fourier et repliement de spectre, critères de Nyquist, filtres analogiques et numériques. La deuxième partie de ce cours propose des applications. Il s'agit de synthétiser un filtre, il s'agit d'utiliser les outils d'intercorrélation et d'autocorrélation dans le cadre d'une application de radar, et il s'agit d'analyser un signal dont le contenu spectral varie au cours du temps. Il faut donc des outils temps-fréquence. Transparent 5. Ce cours ici se décompose en 5 parties. Qu'est-ce qu'une chaîne de mesure? Qu'est-ce qu'un signal périodique? Qu'est-ce qu'un signal quantifié? Quelques transformations simples et leur visualisation? Définition d'un Dirac. Transparent 6. Alors, qu'est-ce que le traitement du signal? L'objectif, c'est d'analyser une transformation source-canal-destinataire. La source est une source d'information. Il peut s'agir d'un microphone, d'un fichier informatique. Le canal, c'est une modélisation de la transformation de sa source d'information. Il peut s'agir de la compression du signal sonore. Il peut s'agir de la transmission par Internet du signal sonore. Et le destinataire, c'est l'outil qui permet de restituer l'information à un destinataire ou pour le stocker. Donc, il peut s'agir d'un CD, d'un haut-parleur ou diverses choses. L'étude de la transformation source-canal-destinataire est l'objet de plusieurs sens. Il y a un aspect technologique qui est très important. Alors, le traitement de signal s'appuie sur une modélisation des aspects technologiques. Le traitement statistique du signal et le traitement de l'information s'appuient sur une modélisation probabiliste de cette modélisation source-canal-destinataire. Il y a de nombreuses difficultés mathématiques que nous ne mentionnerons pas. Les signaux sont sans unité, mais l'importance d'avoir en tête l'application pour l'étude du traitement de signal est quand même une notion importante. Transparent 7. Alors ici, il s'agit d'un exemple d'un signal. Donc la valeur de ce signal, c'est la pression de l'air, la variation de la pression de l'air qui à l'oreille provoque un bruit. Cependant, l'oreille est en fait sensible à une échelle logarithmique. Voilà. Donc, transparent 8. Lorsqu'on modélise un microphone en traitement de signal, on utilise rarement pour le signal la pression de l'air. En général, on utilise plutôt le signal électrique qui sort de l'aimant qui se trouve à l'intérieur du microphone. Ce signal électrique est donc un signal à temps continu, puisqu'il est défini à n'importe quel instant, à valeur continue, puisqu'il peut prendre n'importe quelle valeur. Et le microphone constitue en réalité souvent déjà la première partie d'une chaîne de mesure de traitement de signal, puisqu'il supprime les hautes fréquences et qu'il constitue de fait un filtre analogique qui est utile. Transparent 9, donc deuxième partie du cours, qu'est-ce qu'un signal périodique? Alors, un signal périodique à temps continu, c'est le courbe que l'on voit en haut à gauche. La période désigne la durée sur laquelle un motif se répète. Et en gros, un signal périodique est un signal qui se répète. La courbe en haut à droite désigne un signal périodique temps discret. On retrouve encore la notion de motif et la période et la durée sur laquelle le signal se répète. La courbe en bas à gauche est un signal non périodique à durée limitée et qui est en prenant une partie du signal de haut. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que suivant la période, le choix de l'instant 0 lorsqu'on prélève une partie d'un signal périodique, le signal peut avoir une forme très différente. La courbe en bas à droite n'est pas un signal périodique, mais un signal à durée limitée, c'est-à-dire un signal qui est nul en dehors d'un petit nombre d'échantillons. Le même phénomène que pour le précédent signal se produit, c'est-à-dire que quand on prélève une portion du signal périodique, la forme visuelle que prend ce signal est différente. Transparent 10. La définition d'un signal périodique est que lorsqu'on avance le signal de la quantité grand T, on retrouve le même signal. C'est ce que signifie l'équation S de T plus grand T égale à S de T. Un signal qui est périodique de période T, ou on peut dire aussi T périodique, peut s'écrire sous la forme d'une somme infinie de représentants de ce signal sur l'intervalle NT, NT plus 1, NT plus grand T. Pour les signaux à temps discret, on a les mêmes notions, c'est-à-dire que la définition d'un signal grand N périodique ou périodique de période grand N est que S de petit n plus grand N égale S de petit n. Et un signal qui est grand N périodique peut s'écrire sous la forme d'une somme infinie d'un signal à valeur sur 0 grand N. La somme de deux signaux périodiques n'est pas forcément périodique. On illustre ici deux signaux qui sont relativement similaires. Là, il s'agit d'une sinusoïde à 1 kHz et 1,1 kHz, et plus bas, d'une sinusoïde à 1 kHz et 1,109 kHz. Le fait d'avoir déplacé un tout petit peu la fréquence de la deuxième sinusoïde fait que l'ensemble, la somme des deux sinusoïdes est dans le premier cas périodique de période 20 millisecondes et dans le deuxième cas périodique de période 18 minutes et 29 secondes. Transparent 11. Alors, pour résumer ces notions, on peut parler d'une classification temps discret, temps continu. En haut à gauche, il s'agit d'un signal qui est temps continu à valeur continue. En haut à droite, il s'agit d'un signal qui est à temps continu, mais à valeur discrète. Il est en effet à temps continu parce qu'il prend des valeurs pour chacune des valeurs de l'axe des abscisses, et donc chaque instant. Le signal en bas à gauche est un signal temps discret, à amplitude continue. Il est temps discret puisqu'il prend des valeurs que en des instants régulièrement répartis, et il est à amplitude continue puisqu'on ne peut faire pas de supposition à l'avance sur les valeurs prises par les signaux a priori. N'importe quelle valeur est possible. En revanche, le signal qui est en bas à droite, il est temps discret et à amplitude discrète, c'est-à-dire que les valeurs prises par le signal ne peuvent prendre qu'un petit nombre de valeurs. Alors, la transformation des courbes du haut vers les courbes du bas s'appelle l'échantillonnage. La transformation des courbes de gauche vers les courbes de droite s'appelle la quantification. Et à ces quatre notions, on peut rajouter les notions que nous avons vues précédemment. Chacune de ces courbes peut être périodique ou non périodique. Alors, pour résumer cette classification, les signaux à temps continu et à valeur continue, ça correspond à une fonction qui est continue et à valeur dans les réels. Un signal qui est temps discret et à valeur continue correspond à une suite qui correspond à différents instants NTE et qui est à valeur dans l'ensemble des réels. Un signal à temps continu et à valeur discrète, c'est une fonction continue de t à valeur dans un ensemble fini. Un signal à temps discret et à valeur discrète, c'est une suite de valeurs dans un ensemble fini. Transparent 13. Donc c'est la troisième partie de ce cours. Il s'agit de la quantification linéaire d'un signal, c'est-à-dire de la transformation d'un signal, qu'il s'agisse d'un signal temps discret ou temps continu, mais dans les deux cas à valeur continue, il s'agit de le transformer en un signal à valeur discrète. Alors, ceci se fait en cinq étapes. La première étape consiste à écréter le signal sur un intervalle, c'est-à-dire que les valeurs qui excèdent B sont seuillées à B. Les valeurs qui sont en dessous de A sont ramenées à A. Ensuite, on effectue une transformation linéaire de l'intervalle AB en l'intervalle 0 grand N. Puis, on utilise la fonction partie entière, qui est notée ici grand E, pour affecter à chaque intervalle N, N plus 1, le numéro de l'intervalle, le numéro de la classe. C'est en quelque sorte le code qui est transmis. Et la valeur correspondante à ce code consiste sur chaque intervalle n, n plus 1, à y affecter la valeur n plus 1,5. Et puis, pour trouver la valeur correspondante, on refait toute la transformation inverse pour ramener de l'intervalle 0 grand n en l'intervalle AB. C'est donc le rôle de la dernière équation. Alors, si on représente la relation entre le signal avant quantification et le signal après quantification, c'est ce que représente la courbe présentée à côté. C'est une courbe en escalier puisque pour différentes valeurs de x, la valeur du signal quantifié est identique, ce qui est logique. Donc la plage de valeurs sur laquelle qui va produire le même valeur pour le signal quantifié s'appelle la taille de la classe. Sa largeur dans le cas d'une quantification linéaire est donnée par B-A sur grand N. L'erreur, c'est la différence entre la valeur du signal quantifié et le signal de départ. Donc c'est une valeur qui est au maximum égale à B-A sur grand N et B-A sur 2 grand N si on fait attention que la valeur correspondante soit au milieu de l'intervalle. Et si on identifie... Voilà. Alors le signal, quand il y a grand N classe, et que ce grand N est égal à 2 puissance N, on peut dire que le signal a été quantifié en petit n bits. Par exemple, s'il y a 8 classes, ça veut dire qu'on a pu utiliser 3 bits parce que 2 puissance 3 est égal à 8. Alors, transparent 14. Ce qu'on observe ici, c'est un signal temps continu qui est en rouge et qui a été quantifié. Et au fur et à mesure du temps, le nombre de bits utilisés est varié. En bas, c'est l'erreur faite en quantifiant ce signal avec un nombre de bits variable. Et à droite, c'est l'erreur commise en quantifiant le signal décroît avec l'augmentation du nombre de bits. Le signal qui est transmis par téléphone est un signal audio où la quantification utilise le fait que l'oreille est sensible au logarithme du signal beaucoup plus qu'à la valeur du signal. Il s'agit donc d'une quantification non linéaire qui est utilisée. En haut à gauche, c'est un signal pur en bleu et en rouge, c'est le signal quantifié par cette loi de codage. En dessous, on observe sur une échelle logarithmique le signal d'origine en bleu et le signal codifié en rouge. La quatrième partie de ce cours, on illustre quelques transformations simples et leur visualisation. Alors, on a considéré ici un signal d'origine en haut à gauche. Lorsqu'on retarde le signal, cela signifie que la courbe est déplacée vers la droite et l'équation est S de t moins t0. Lorsqu'on dilate le signal, ça signifie que c'est l'échelle des abscisses qui est étirée. Et on observe ceci au fait que le signal démarre encore en zéro, mais que le premier décrochement et le deuxième décrochement sont retardés par rapport à la première courbe. On observe même que le deuxième décrochement est plus retardé que le premier décrochement. Dans le cas de la quatrième courbe, c'est un signal avec composante continue. Cela signifie que la courbe a seulement été surélevée. Donc on l'observe au fait que partout, l'ensemble de la courbe a été survolé, y compris le signal qui était nul au départ. Un signal amplifié, c'est un signal qui est multiplié par un scalaire. Autrement dit, la partie qui était nulle reste inchangée, mais les parties qui sont élevées sont plus augmentées que les parties qui sont basses. On peut l'observer par exemple au fait que les décrochements ont augmenté en amplitude. Transparent 17. Il y a un Dirac qui est défini à temps continu, qui en fait n'est pas une fonction, mais qui peut se définir comme la dérivée par rapport au temps d'un échelon. La fonction grand 1 de R plus est la fonction qui vaut 1 lorsque t est positif ou nul et qui vaut 0 lorsque t est négatif. A priori, cette fonction n'est pas dérivable et si on voulait la dériver, eh bien, on lui donnerait le sens d'un Dirac, qui est quelque chose qui prend une valeur infinie. Concrètement, ce Dirac a cette propriété particulière qui est que lorsqu'il est multiplié par une fonction quelconque et qu'on calcule l'intégrale de l'ensemble, Dirac et cette fonction, la valeur prise par l'intégrale est égale à la valeur de la fonction en t0. Pour le temps discret, on définit aussi un Dirac dont la définition est beaucoup plus simple s'il s'agit d'une suite qui vaut 1 en l'instant 0 et qui vaut 0 pour tous les autres instants. C'est donc la fin de ce cours A. Ah.